Le cantique que nous venons de chanter, mais tout naturellement venu à l'esprit parce que nous avons aussi besoin dans notre marche chrétienne d'être encouragés et que le Seigneur puisse vraiment diriger nos pas. Et parfois, nous chantons aussi beaucoup de cantiques, mais quelle est la réalité? Dans quelle mesure nous vivons ce que nous chantons? Et parfois, ça va loin parce que nous sommes quand même à des... Si nous sommes réalistes, nous sommes bien loin de pratiquer ce que nous chantons. Alors, cet après-midi, j'ai à cœur de raconter l'histoire d'un homme qui vivait une vie de foi et dont la vie n'était pas languissante. Si le Seigneur ne dirige pas nos pas, si nous ne mettons pas notre confiance en le Seigneur, alors notre vie est languissante. Parce que souvent nous essayons de régler des problèmes par nous-mêmes, parce qu'on se croit toujours meilleur Mais la parole qui est là devant nous nous apprend quoi ? Nous apprend l'humilité. Aujourd'hui, la compétition, c'est d'écraser les autres. Mais dans la parole, c'est tout le contraire. Plus nous serons humbles avec le Seigneur, plus nous reporterons, en guillemets, des victoires. Et là, je prendrai l'histoire de Philippe. Philippe, on n'entend pas beaucoup parler, peut-être, mais Philippe, est un grand encouragement pour les personnes, pour tous ceux qui désirent mettre leur confiance dans le Seigneur et se laisser diriger par lui. Je commencerai par la lecture de Actes 8. Acte 8, le verset 1er. Pardon, le verset...
Oui.
Or, en ce temps-là, il y eut une grande persécution contre l'assemblée qui était à Jérusalem, et tous furent dispersés dans les contrées de la Judée et de la Samarie, excepté les apôtres. Et des hommes pieux emportèrent Étienne pour l'ensevelir et le menèrent, et menèrent un grand deuil sur lui. Ici, nous sommes au début de l'histoire de l'Église. Et il y a ici tous les apôtres qui sont dispersés, il y a tout le monde qui est dispersé, excepté les apôtres qui restent à Jérusalem. Et pourquoi ils sont dispersés? Parce qu'il y avait une grande persécution. Nous lisons au verset 3, « Or Saul ravageait l'assemblée, entrant dans les maisons et traînant hommes et femmes, et les livrait pour être jetés en prison. » Quand nous sommes en paix, quand nous sommes tranquilles, souvent c'est nous qui créons des problèmes, mais quand c'est vraiment une grande persécution qui vient, il y a beaucoup de choses qui, en apparence, sont futiles, disparaissent pour être au profit des choses qui durent et qui sont solides. Alors, nous voyons verset 4, « Ceux donc qui avaient été dispersés allaient çà et là annonçant la parole. Et Philippe, étant descendu dans une ville de la Samarie, leur prêcha le Christ. » Alors, quand on arrive ici, on peut se poser la question, mais qui est Philippe? Qui est Philippe? Ou qui est ce Philippe? Alors, nous venons au chapitre 6 du même livre des Actes. Et je lirai le premier paragraphe. Or, en ces jours-là, le nombre des disciples se multipliant, il s'éleva un murmure des Hellénistes contre les Hébreux, parce que leur veuve était négligée dans le service journalier. Et les 12, ayant appelé la multitude des disciples, dirent, « Il ne convient pas que, laissant la parole de Dieu, nous servions table. Jetez donc les yeux, frères, sur cet homme d'entre vous, qui ait un bon témoignage plein de l'Esprit Saint et de sagesse que nous établirons sur cette affaire. » Premièrement, quelques mots sur le début de ce paragraphe. Il y a énormément de personnes qui viennent et une assemblée grandit. Et voilà que il y a une dispute entre les Hébreux et les Hellénistes, qui sont des Grecs, parce que les veuves étaient négligées. Et ici, à Jérusalem, il y avait les 12 apôtres. Alors, en tant qu'apôtres, ils auraient pu donner des ordres, qui choisir. puisqu'ils avaient une responsabilité, une autorité aussi qui venait du carême, directement du Seigneur. Mais qu'est-ce que font les apôtres? Les apôtres disent, il ne convient pas que laissant la parole de Dieu, nous servions table. Ils disent, mais nous, on ne peut pas s'occuper de ce service. Parce que pour nous, le service, c'est la parole. Alors, ensuite, jetez donc les yeux, frères, sur cet homme d'entre vous qui ait un bon témoignage plein de l'Esprit Saint et de sagesse que nous établirons sur cette affaire. Qui doit choisir les personnes? C'est l'Assemblée. Alors maintenant, si nous transposons aujourd'hui, qui désigne des personnes, c'est le rassemblement local pour certains services, je dirais, ben, le service des tables, le service basique, le service qui est ici local. Mais qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces hommes? Ils doivent avoir certaines qualités. Ils doivent avoir un bon témoignage, plein de l'Esprit Saint et de sagesse. Premièrement, un bon témoignage. Quel est le témoignage que je donne dans mon rassemblement local? Mais il n'y a pas que dans le rassemblement local. Il y a aussi quel est le témoignage que je rends envers mes voisins, où j'habite, où je suis, où je travaille. Je peux très bien avoir deux vies. Avoir une vie professionnelle où j'aime bien m'élever et je peux écraser les autres. Ou avoir une vie qui descend, disons, qui dépend du Seigneur. Et alors là, j'ai un bon témoignage parce que je cherche la paix. Le Seigneur ne nous demande jamais de provoquer la guerre. Le Seigneur ne nous demande jamais d'essayer d'être supérieur aux autres. Jamais, jamais, jamais. Il suffit de lire Philippiens 2. Nous avons l'exemple même du Seigneur dans l'humilité. Alors, je lirai un verset dans Romains 12. À la fin du verset 16, Romains 12, à la fin du verset 16, « Ne soyez pas sages à vos propres yeux, ne rendant à personne mal pour mal, vous proposant devant ce qui est honnête, devant tous les frères. » Non, devant tous les hommes. « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, vivant en paix avec tous les hommes. » Ne vous vengeant pas vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, moi je rendrai, dit le Seigneur. Si donc ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en faisant cela, tu entasseras des charbons de feu sur sa tête. Ne sois pas surmonté par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Est-ce que c'est notre caractère? À la base, pas du tout. Quand il y a des conflits qui s'enveniment, parce que je veux rendre coup pour coup, mais l'humilité est absente. Et là, il est bien écrit, « Ne soyez pas sages à vos propres yeux, ne rendant à personne mal pour mal. » Il y a l'honnêteté, puis s'il est possible, autant que cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Pour avoir la paix, il faut être deux. Si l'autre ne veut pas, j'aurais au moins fait mon possible, mais il y a le reste du service. L'ennemi, c'est lui rendre, au verset 20, « Si donc ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en faisant cela, tu entasseras des charbons de feu sur sa tête. » Expression étonnante, mais ça veut dire lui faire du bien le plus possible, et c'est lui qui aura des comptes à rendre au Seigneur. Et c'est comme cela aussi que nous apprenons à dépendre du Seigneur. Parce que c'est carrément, mais contraire à notre volonté propre. Alors on essaye. Si on n'y arrive pas tout de suite, mais ça ne fait rien, on continue, on essaye, on prie, la prière est là pour que le Seigneur nous aide. Il y a non seulement la prière, mais une chose fondamentale, la lecture de la parole. Je ne peux pas prier si je lis et je ne lis pas la Bible. Comment je peux écouter la voix du Seigneur? Si je ne fais que dire la Bible, je ne prie pas. Comment poser mes volontés? Comment demander au Seigneur d'avoir cette vraie communion avec le Seigneur que nous pouvons tous avoir aujourd'hui. Le ciel est ouvert pour nous 24 heures sur 24. Alors, ici, dans ce chapitre 6, il est écrit au verset 5, « Et ce discours plut à toute la multitude, et ils choisirent Étienne, homme plein de foi et de l'Esprit-Saint, et Philippe, et Procore, et Nicanor, et Timon, et Parménas, et Nicolas, prosélyte d'Antioche, qu'ils présentèrent aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. » Voilà ces hommes qui ont été choisis par l'Assemblée et qui ont été présentés aux apôtres. Des hommes qui avaient un bon témoignage dans l'Assemblée, mais qu'on entendait, des hommes qui étaient actifs. Et cela nous encourage aussi, je dirais, à jeunes, moins jeunes, j'entends, mais à laisser aussi notre cœur parler. Si nous laissons notre cœur parler, nous serons aussi plus spontanés. Et il y a bien des choses qui pourraient se passer. Mais pour cela, il faut y aller. Puis il faut faire confiance au Seigneur. Puis il faut avoir, je ne peux pas donner ce que je n'ai pas reçu. Et ce que j'ai reçu, c'est en tout cas la parole qui est là. On peut avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étarature. Mais quelle est la différence entre la Bible et toute la littérature que nous avons? Je lirai deux versets. Le premier dans le livre, l'Épître aux Hébreux. Au chapitre 4. Au verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et opérante et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, et atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle discerne des pensées et des intentions du cœur. Il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui, mais toutes choses sont nues et découvertes aux yeux de celui à qui nous avons affaire. Verset qu'on peut souligner dans nos Bibles. D'une part, la parole de Dieu, elle est vivante et opérante. Aucun livre au monde n'est vivant et opérant. Seule la parole de Dieu l'est. Seule la parole de Dieu pourra nous transformer. Et pour cela, nous avons encore un verset à ce sujet dans Jean 6. Au verset 63, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne profite de rien. Donc c'est le Seigneur qui parle. Les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et sont vie. Le Seigneur dit, les paroles qu'il dit sont esprit et sont vie. Et qu'est-ce qui nous dit ça? Mais c'est la Bible, c'est ce que nous avons sous les yeux. C'est parce que je vous dis maintenant. C'est le Seigneur qui parle. C'est lui qui a ses paroles. Et pour terminer, dans Romains 12, je vous exhorte, verset 1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, c'est-à-dire de tout ce qu'on est, pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, agréable, bonne et parfaite. Voilà un point fondamental dans notre vie chrétienne. Parce que ne vous conformez pas à ce siècle, ça veut dire de faire comme les autres font. C'est tout simple. On se laisse entraîner par différentes choses. On aime bien les mouvements de foule, on aime bien les si, mes collègues font ci, mes collègues font ça, etc. Et je me laisse entraîner. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement. Ça veut dire le renouvellement de nous-mêmes. Et comment être transformé? Vous pourrez faire tous les efforts du monde, vous n'y arriverez jamais. C'est impossible. Être transformé, c'est le Seigneur qui nous transforme. C'est le Seigneur qui nous transforme par l'intérieur qui va vers l'extérieur. C'est un petit peu comme le tabernacle où le Seigneur apparaît sur le lieu très saint et ensuite il approche pour arriver jusqu'à la sortie quand on construit le tabernacle. Mais l'Israélite devait commencer par passer par le portail et ensuite l'autel d'airain, la cuve d'airain pour pénétrer dans le lieu saint ou très saint, lieu qui était réservé au seul sacrificateur. Et pour le lieu très saint, seulement le souverain sacrificateur et Moïse. J'ai encore ce verset qu'on peut lire dans 1 Corinthiens 2, c'était l'avant-dernier, donc maintenant c'est le dernier concernant ce sujet. 1 Corinthiens chapitre 2. Attendez, voilà. Une petite seconde. Non, pardon. 2 Corinthiens, chapitre 3. Au verset 18. Or, nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur en esprit. Contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Voilà quelques versets qui sont là pour nous montrer que la parole vient en premier, que notre communion avec le Seigneur vient en premier, que c'est le Seigneur qui nous transforme. Vous prenez n'importe quel arbre, ben on va prendre le fruit de la vigne par exemple, vous prenez le raisin. Mais comment le raisin devient au départ? Qu'est-ce qui coule dans le raisin, dans le cep? C'est la sève. La sève ne coule jamais à l'extérieur, elle coule dans le cep. Et ensuite, ce qui est très joli à observer aussi, c'est de voir au tout début, quand la vigne commence à, avant qu'elle commence à grandir, on dit que la vigne pleure. Pourquoi? Parce que la sève qui est dans le cep s'écoule au bout du sarment, et ça va très doucement, c'est comme une goutte de sève qui tombe, qui pend au bout du sarment. Et ça me fait souvent penser à la marche chrétienne. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent des pleurs. La marche chrétienne n'est pas une vie parsemée de roses, même si elle a des épines, mais c'est une vie quand on suit le Seigneur où il y a des pleurs. Parce que si nous sommes conscients que nous avons fait du tort au Seigneur, il y a la repentance, 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, nous sommes pardonnés, mais il faut la confession. Et souvent, qu'est-ce qui empêche le chrétien de devenir mature? Il suffit de lire l'Épître aux Corinthiens, mais je dirais par exemple l'absence de pardon, les ressentiments les uns envers les autres, le manque de communication, etc. Tellement, tellement de choses qui nous empêchent de croître spirituellement. Et pour cela, nous avons besoin de l'aide du Seigneur. Et ce travail Ici, nous sommes, il y a beaucoup de jeunes, mais ils se commencent de bonne heure. N'attendons pas d'être à la retraite pour commencer à lire la Bible et puis enseigner les autres. Ça ne se passe pas comme ça. Un chêne, s'il veut s'enraciner profondément, il ne va pas pousser en un jour. Le quicajon, oui. Mais il est aussi détruit en un jour par un ver. Mais pas de chêne. Alors, mon désir, c'est que très tôt, on puisse prendre le temps chaque jour de lire la parole. Et simplement de demander au Seigneur son aide. Et après, le Seigneur vous dirigera. Et c'est le Seigneur qui opère des miracles, ce n'est pas moi. Mais si nous désirons avoir une vie non languissante, mais je marche par la foi, alors là, vous aurez une vie. Parce que, pourquoi je marche par la foi? Parce que j'ai un but devant moi. C'est de servir le Seigneur, c'est de faire ce que le Seigneur me confie. Il ne nous confiera pas peut-être comme un Philippe, qu'on va lire juste l'histoire maintenant. Mais ça sera, dans Corinthiens 12, par exemple, nous avons le don d'aide. J'entends souvent les questions, mais qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur? Qu'est-ce que je peux faire pour plaire au Seigneur? Quel don est-ce que j'ai, par exemple? Une question que j'entends souvent. La réponse, commence à faire ce que le Seigneur place devant toi. Pas besoin de chercher le don que j'ai. Pourquoi moi chercher le don que j'ai? Mais je fais ce que le Seigneur place devant moi, c'est tout. Et c'est les autres qui verront peut-être que tel est tel. Ben, comme acte 6, on a vu qu'ils étaient pleins d'Esprit Saint et de sagesse. Ils ont été choisis. Ils avaient un don qui était autre que les autres, que des personnes de l'Assemblée. Et dans Corinthiens 12, nous avons des dons spécifiques et nous avons les dons que tout le monde peut avoir, le don d'aide. Alors, si j'en reviens à Philippe, voilà comme ce qu'il avait au départ. Il a eu les mains, il avait vraiment à cœur de servir le Seigneur. Il l'a démontré dans son assemblée à Jérusalem. Et alors, après, quand il était persécuté, au chapitre 8, nous voyons que il annonce la parole, ce don qui avait été dispersé au verset 4, allait çà et là annonçant la parole. Et Philippe, étant descendu dans une ville de la Samarie, il leur prêcha le Christ. Et les foules, de commun accord, étaient attentives aux choses que Philippe disait, l'entendant et voyant les miracles qu'il faisait. Car les esprits immondes, criant haute voix, sortaient de plusieurs et étaient possédés, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville ce jour-là, dans cette ville-là. Qui n'aurait pas aimé être présent à ce moment-là? Tout est magnifique. La parole est annoncée. Philippe n'a pas peur d'annoncer l'évangile, alors qu'au départ, il servait aux tables. Et ensuite, chassé par la persécution, il était où il ne voulait pas. Donc, en Samarie. Et ici, il parle du Seigneur. D'accord, c'est le début des actes, on peut dire. Mais d'aller là, des fois, le Seigneur nous conduit des fois où on ne veut pas aller. Mais si vraiment c'est le Seigneur qui vous conduit là où vous ne désirez pas aller, où vous... Comment dire, vous... qui vous conduit dans un endroit où jamais vous penseriez que vous iriez. Mais si le Seigneur vous envoie, il est avec vous. Quand il l'envoie, il pourvoit. Pas seulement financièrement, j'entends, mais par les prières, par les amis. Il peut vous emmener, on va voir, disons, ce que le Seigneur peut faire avec Philippe. Alors, dans ce... Premier paragraphe, enfin, le paragraphe des versets 4 à 8, on voit qu'il y a beaucoup de choses positives. Le verset 9. Oh, voyant cela, il y avait dans la ville un homme nommé Simon qui exerçait la magie et étonnait le peuple de la Samarie, se disant être quelque grand personnage auquel... auquel tous s'attachaient depuis le plus petit jusqu'au grand, disant « Celui-ci est la puissance de Dieu appelée la grande. » Voilà, nous voyons ici que « Et il s'attacha à lui parce que depuis longtemps il les étonnait par sa magie. » Deux choses, sa puissance, sa magie. Et est-ce que ce n'est pas aussi le cas, les caractéristiques d'aujourd'hui, les personnes qui sont puissantes, qui nous éblouissent par certaines choses, on a tendance à les croire et à les suivre. Et ici, il est écrit ensuite, « Mais quand ils eurent cru Philippe, qui leur annonçait les bonnes nouvelles touchant le royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ, tant les hommes que les femmes furent baptisés. » Nous voyons là qu'il annonce, Philippe n'est pas là pour combattre Simon. On ne voit pas cela. Il y a Simon qui détourne toutes les âmes, qui fait de la puissance, qui fait des miracles. Je manque de discernement, donc je le suis. Ou j'ai aucun discernement, je ne suis pas croyant, donc je le suis. Un jour, quelqu'un suivra l'Antichrist. Mais aujourd'hui, il y a des faux Christ, il y a des faux bruits, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, comment je peux discerner tout cela? Quel est le fil à plomb? De nouveau, c'est la parole. C'est pas ce que vous dites, XYZ, c'est la parole. J'ai des questions, je sonde la parole, je demande au Seigneur. Et je vous l'ai lu tout à l'heure, la parole est vivante et opérante. Et je l'ai expérimenté à plusieurs reprises. Dans une lecture journalière, il répond à des besoins que vous avez présentement ou que vous lui avez demandé il y a quelque temps. Elle est agissante, cette parole, elle vous parle, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament. C'est toute la parole de Genèse à l'Apocalypse. Elle a une puissance qu'on se nie. On ne s'imagine pas. Et ici, il y a Philippe, on voit que tant... qui baptise les personnes, et après Simon crut aussi lui-même, et après avoir été baptisé, il se tenait toujours auprès de Philippe, et voyant les prodiges et les grands miracles qu'il se faisait, il était dans l'étonnement. Voilà quelque chose d'intéressant. Simon demande d'être baptisé, Philippe le baptise. Ce qui prouve quoi? Que le baptême ne sauve pas. Et ici, Philippe, on est au début de l'histoire de l'Église. Philippe n'est pas apôtre, il n'avait pas la Bible avec lui. On ne veut pas l'accuser qu'il manque de discernement, c'est pas vrai, ce n'était pas son rôle. Mais on voit après que Simon demeurait auprès de Philippe. Verset 14. Or, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, leur envoyèrent Pierre et Jean, qui, étant descendus, prièrent pour eux pour qu'ils reçussent l'Esprit Saint. Je fais un travail. Il y a beaucoup de personnes qui se convertissent, qui croient, et je baptise beaucoup de personnes. Et tout d'un coup, voilà Jérusalem qui m'envoie des émissaires. Quelle attitude vais-je adopter? Mais c'est moi qui fais ça. Ça y est, je suis surveillé, ça y est, je suis ci, je suis ça. Non, c'est pas ce que la Bible dit ici. Nous voyons une communion entre les apôtres et Philippe. Et pourquoi il fallait les apôtres? Pourquoi les personnes n'ont pas reçu l'Esprit Saint ici? Il nous faut venir à Matthieu 16. Matthieu 16 au verset 18. On peut lire le verset 16 déjà. Quand le Seigneur pose la question, qui disent les hommes que je suis, moi, le Fils de l'homme, au verset 13, au verset 16, Simon-Pierre répondant dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus répondit, lui dit, tu es bienheureux, Simon, par Jonas, car la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux, et moi aussi, je te dis que tu es Pierre. Et sur ce roc je bâtirai mon assemblée, et les portes de l'Hadès ne prévaudront pas contre elle. Et le verset 19, et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. À qui ce verset est-il adressé? Matthieu 16, verset 19. À Pierre. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Ça veut dire que c'est Pierre qui ouvre, comment je vais dire ça, l'évangile aux nations. Premièrement, nous voyons Pierre dans Acte 2, à la descente du Saint-Esprit. Deuxièmement, nous le voyons dans Acte 8, parce que c'est Pierre et Jean qui viennent pour que les gens reçoivent l'Esprit Saint. Pour qui? Pour les Samaritains. Et troisièmement, nous le voyons dans Acte 12, lorsque Pierre va chez Corneille. Et si vous lisez, Acte 10, pardon. Quand on lit Acte 10 et qu'on voit comment Pierre a eu la difficulté pour aller chez Corneille, vous pourrez remarquer aussi que d'une part Corneille priait, d'autre part Pierre devait aller chez Corneille, mais il ne voulait pas, il était impur. C'est une personne des nations. Et la patience de Dieu qui lui a révélé qu'il devait aller chez Corneille. C'est pas le sujet de cet après-midi, mais c'est intéressant de voir comment le Seigneur dirige Pierre. Et ensuite, quand il va à Jérusalem, que tout le monde a appris, et comment Pierre calme aussi la situation. Toute une instruction aussi pour nos relations dans le cadre de l'Assemblée. Alors, si je reviens en Acte 8, on voit qu'ici, il y a la parole de Dieu, et Pierre et Jean qui viennent, au verset 15, et étant descendus, prièrent pour eux, pour qu'ils reçussent l'Esprit Saint. Et ensuite, il y en a, au verset 17, ils leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Verset 18, or Simon, voyant que l'Esprit Saint était donné par l'imposition des mains des apôtres, leur offrit de l'argent. Voilà que les apôtres sont là, et c'est eux qui avaient ce ministère d'imposer aux personnes pour qu'elles reçussent, pour qu'elles aient le Saint-Esprit. Mais là, les apôtres, ayant le discernement du Seigneur, ont discerné que Simon était un magicien et il n'a pas eu d'Esprit Saint. Après, qu'est-ce qu'il est devenu de Simon? Je n'en sais rien. Mais ensuite, au verset 26, on peut dire le verset 25. Eux donc, après avoir rendu témoignage et avoir annoncé la parole du Seigneur, sont retournèrent à Jérusalem et ils évangélisaient plusieurs villages des Samaritains. Et, verset 26, un ange du Seigneur parla à Philippe disant, « Lève-toi et va vers le midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, lequel est désert. » Et lui, se levant, s'en alla. Vous êtes en plein travail. Vous avez une grande foule qui se convertit. Il y aurait beaucoup de choses à leur dire. Un travail immense qui est là. Je suis indispensable. Qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Lève-toi, va sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, lequel est? Désert. Qu'est-ce que fait Philippe? Et lui, se levant, s'en alla. Pourquoi lui, se levant, s'en alla? Pourquoi il n'a pas discuté? Pourquoi il s'est dit, il n'a pas cherché des excuses? Parce qu'il connaissait le Seigneur. Il obéissait au Seigneur. Et il savait que si le Seigneur l'envoie, ce n'est pas la peine de discuter. Lisez le chapitre 3 de l'Exode, chapitre 3 et 4, où l'Éternel va envoyer à Moïse, et vous verrez que pour finir, l'Éternel se fâche parce que Moïse ne veut pas aller. Et pour finir, Moïse a dû aller. Et c'est toutes des leçons que nous apprenons au travers de la parole, avec tous ces hommes de foi, dont Gédéon, etc., on apprend des choses, mais extraordinaires. Et là, Philippe, c'est un homme qui est, je dirais, comme nous, presque. On était au début de l'Église, mais les fêtes sont exactement pareilles. Alors, et se levant, il s'en alla. Et voici un Éthiopien eunuque, homme puissant. Tout d'un coup, lui qui parlait aux foules, il doit s'adresser à une personne. Un eunuque qui passait par là. Voyez comme le calendrier du Seigneur est précis. Philippe, ton ministère à Samarie est terminé. Maintenant, tu te lèves, tu vas à Gaza. Je suis sur le chemin, mais qu'est-ce que je vais faire sur un chemin qui est désert? Tout d'un coup, il y a un eunuque qui arrive. Et quand on vit vraiment par la foi, ce genre de situation nous arrive aussi. Quand on vit, quand on laisse le Seigneur diriger, Seigneur, tu diriges mes voies. Si j'ai une pleine confiance dans le Seigneur, ces choses arrivent. Quand il a son temps, mais il nous donne le discernement et il nous aide. Parce qu'il nous aime et il veut notre bien. Alors ensuite, verset 35, et Philippe ouvrant la bouche et commençant par cette écriture, lui annonça Jésus, donc il s'agit de Ésaïe 53. Et comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à une eau et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Et il donna l'ordre qu'on arrêta le char, ils descendirent tous les deux à l'eau et Philippe et l'eunuque, et Philippe le baptisa. Et quand ils furent remontés hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, car il continua son chemin tout joyeux. Mais Philippe fut trouvé à Azote, et en passant au travers du pays, il évangélisait toutes les villes jusqu'à ce qu'il fût arrivé à Césarée. De nouveau, Philippe accomplit son service, et là, pour le baptême, conversion, baptême. Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde, pas beaucoup de monde? La parole nous dit eux deux. Ça suffit. Je n'ai pas besoin de savoir s'il y avait beaucoup de monde ou pas de monde. Restons à ce que la parole nous dit et essayons d'arrêter les peut-être, ou je crois que, ou je pense que. Non, ça n'a pas de valeur. Mais là, on voit que, tout joyeux, l'eunuque ne s'est même pas aperçu que Philippe a disparu. Parce qu'après, Philippe fut trouvé à Azote. Et on voit qu'il ne reste pas, qu'il continue le travail qu'il avait commencé. Il évangélisa toutes les villes jusqu'à ce qu'il fût arrivé à Césarée. Et c'est beau, si vous regardez une carte de Jérusalem, vous voyez que Philippe part du nord, descend jusqu'au sud et remonte jusqu'au nord. On peut dire quasiment il fait tout le pays pour finir, arriver à Césarée où il est chez lui. Et qu'est-ce qui se passe à Césarée plus tard dans les actes? On a quatre filles de Philippe qui faisaient quoi? On sait qu'il a quatre filles. Elles faisaient quoi? Elles prophétisaient. Ce qui nous montre que dans un cas précis, les filles de Philippe prophétisaient, mais nous voyons comme Philippe a inculqué aussi le Seigneur dans sa maison. Et ceci est très important, parce que le premier terrain de mission que le Seigneur nous confie, c'est la famille. N'oublions jamais que les enfants, on les a jusqu'à 15 ans, plus ou moins, mais ensuite. Et quels sont les meilleurs messagers de la parole? C'est le couple. Les enfants nous voient en tant que couple. Et ils ont des yeux. Comment se comporte le couple? Et ils enregistrent. Et c'est ça qui est important. Mais on n'est pas des parents parfaits. Loin d'elle. Loin d'elle. La Bible nous parle aucune famille parfaite. Mais qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? La grâce du Seigneur qui agit. Et la foi des parents qui vont prier pour leurs enfants, petits-enfants, etc., portera du fruit un jour. Peut-être pas tout de suite, peut-être. Mais tout ce qui est semé quand ils sont jeunes, cela, ils ne l'oublieront jamais. Ce qu'ils ont entendu, s'ils l'ont entendu, ce qu'ils ont vu, les marquera à toujours dans leur vie. Voilà, c'était l'histoire de Philippe, qui est un grand enseignement pour chacun, et aussi que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et qu'il est là pour nous aider. Nous sommes ses brebis, nous sommes ses enfants, c'est le meilleur des pères. Confiez-vous en lui, soyez à son écoute par la lecture de sa parole, et laissez-vous diriger par lui.
En considérant les passages que le Seigneur a mis devant nous cet après-midi, il y a ces deux expressions que nous aimerons souligner à nouveau dans le chapitre 8 de Actes des Apôtres, le verset 4. Et Philippe étant descendu dans une ville de la Samarie, leur prêcha le Christ. Et dans ce même chapitre, verset 35, « Et Philippe, ouvrant sa bouche et commençant par cette écriture, lui annonça Jésus. » Et on peut mettre en parallèle ces deux expressions avec une autre que nous retrouvons cette fois-ci dans l'épître de Paul aux Corinthiens, la première au chapitre 2, verset 2. Car je n'ai pas jugé bon de savoir quoi que ce soit parmi vous, sinon Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Et ainsi, on le sait, on l'a rappelé d'une autre manière, que de l'abondance du cœur, je pense, la bouche va parler. Nous savons et nous vous avons vu dans cet instrument qu'était Philippe, une vie de foi, une vie de témoin de Christ. Et on peut se dire, et on l'a lu aussi, tant dans Hébreux chapitre 4, verset 12, que dans 2 Corinthiens 3, verset 18, que ayant pour seul objet la personne du Seigneur, s'en nourrissant continuellement, il pouvait lui parler de ce qui était cher à son cœur. Et c'est pour nous encourager, on a parlé des plus jeunes, mais on peut aussi parler de nous tous de façon générale. Qu'est-ce qui remplit nos cœurs? Et est-ce que nos bouches sont, et nos vies, bien sûr, c'est le souhait du Seigneur, consacrées à parler de Jésus, à prêcher le Christ d'une façon ou d'une autre? Or, on ne peut pas parler de quelque chose qu'on ne connaît pas. À Nicodème, le Seigneur avait justement fait cette remarque. Cela nous pose cette question ou nous interpelle sur ce qui prend de la place dans notre quotidien. On nous a rappelé encore une fois que la parole devait être méditée jour et nuit dans nos vies. Mais ce n'est pas la parole pour meubler notre intelligence, on l'a aussi dit, mais c'est pour y chercher la personne du Christ, pour se nourrir de lui, et après, sans même faire quelque effort que ce soit, nos bouches s'ouvriront pour Jésus, pour prêcher Christ. Et ainsi nous serons ses témoins.